Chapitre 17. Monsieur Jean Richard avait arrangé que Donna, comme son prédécesseur, comme tous les jeunes instituteurs de Pertan, depuis les origines, prendrait son repas de midi à la Buissonne, chez madame Crisselin. Ce repas lui coûtait 15 francs par mois, et, tout en fortifiant son être physique, devait tonifier son être moral et mental par l'influence et les conversations qui l'accompagnaient. Madame Crisselin était une anomalie. Neuchâteloise, Welsh par tous ses ascendants, précise, symétrique, logique, latine dans sa fibre, elle avait épousé un anabaptiste allemand, un mystique qui n'était point un ascète, un prophète et un sacrificateur le dimanche, et tous les jours, un agriculteur âpre comme sa terre, dur comme le roc, capable d'un fanatisme ardent et d'une ferveur religieuse qui l'eût conduit au martyre pour ce dogme héréditaire, seul reste de la grande espérance de sa secte, le refus du service militaire. Plutôt que de manier le fusil d'ordonnance, il se fût coupé la main droite, comme son grand-père s'était volontairement coupé le pouce droit, dans le temps où les anabaptistes étaient traqués par la loi sur leur montagne. En consentant à être enrôlé dans la troupe pacifique des brancardiers, le père de Daniel Crisselin n'était même pas sûr de n'avoir pas renié un idéal, et Daniel avait, dans sa jeunesse, pour la même raison, émigré en Amérique. Il en était revenu à 30 ans avec une petite fortune qu'il avait judicieusement employée à dégrever le domaine paternel, la chère Buissonne de son enfance, ses beaux champs unis et doux, ses prairies onduleuses, les tilleuls dont sa mère chaque été recueillait les fleurs suaves, et la sapinière soignée comme un parc, et le pâturage d'où l'œil pouvait planer sur le monde et sa gloire. Les parents étaient morts, et tout à coup, une nouvelle madame Crisselin s'était trouvée là, régnant sur la maison et sur les servantes, parlant net, riant clair et sans accent allemand. La parenté illimitée, inextricable, incompréhensible dans ses nœuds d'alliances et de cousinage, vint avec décorum et stupeur faire sa connaissance. Personne ne sut jamais quand et pourquoi s'était accompli ce mariage anormal. Madame Crisselin s'appelait Inès de son petit nom, elle portait des boutons et non des agrafes à son corsage, elle n'avait pas été rebaptisée, elle ne savait pas un mot d'allemand. Comme le ménage resta sans enfant, on s'accorda pour croire qu'il portait le poids d'une certaine défaveur céleste, et l'on félicita les cousins éloignés, futurs héritiers de la Buissonne. Madame Crisselin, pauvre femme, était dévorée par une passion maternelle sans objet. Son mari ne parlait jamais d'enfant, ni en bien ni en mal. Sa seule faiblesse tendre était pour Inès, qu'il admirait avec gravité, avec un émerveillement austère, dans les fluctuations rapides et colorées de son humeur mobile. Elle avait de l'ordre, beaucoup d'ordre, et de l'activité à revendre, mais aussi de la fantaisie, et la maison était tenue tout autrement que jadis. On mangeait d'autres mets, on chantait des chants welsh le soir, sur le pont de Grange, on recevait un journal illustré. Quand Madame Inès s'avisa de remplir la Buissonne de pensionnaires pendant l'été, son mari ne fit pas d'objection. Il y vit même deux avantages. Comme Inès savait compter, le petit profit pécuniaire était certain. Et le cœur toujours inassouvi, toujours criant famine de la femme sans enfant, trouverait un aliment d'occasion dans la bande souffreteuse des anémiés, des fatigués qu'on allait accueillir. Daniel Crisselin posa une seule condition, c'est qu'on mangerait tous ensemble, selon la coutume patriarcale, maîtres, pensionnaires et domestiques, dans la salle, si la grande cuisine ne pouvait suffire. La cuisine suffisait au moment où Donna vint prendre à la Buissonne cette place qu'il occupa pendant une année. Réservé d'abord, presque défiant parce qu'il était triste, c'est à peine s'il prononça deux paroles le premier jour, mais il remarqua le ton honnête de toute la maisonnée et il se sentit à l'aise. Le lendemain, Madame Inès le retint 2 minutes après son repas. « Comment va la petite Louise du mi-temps ? » lui demanda-t-elle de sa voix nette, où, pour un rien, l'émotion vibrait comme un frôlement sur un cristal clair. « Louise du mi-temps ? Voyons !» fit Donna, dont tous les écoliers étaient encore, pour lui, anonymes. « Une maigrelette qui tousse !»« Ah oui, elle dérange la classe avec sa toux. Je l'ai envoyée chez elle se soigner, dit le jeune instituteur d'un ton un peu énervé. Chez elle? Qui est-ce qui la soignera chez elle, à votre idée? Mais je n'en sais rien, je ne la connais pas. Elle a des accès affreux, c'est peut-être la coqueluche. Voulez-vous que je vous dise, cette petite-là, grosse comme le poing, a de l'asthme à son âge. Bien possible, fit Donna un peu distrait. Et je voulais vous demander, si elle revient, envoyez-la-moi. Je lui fais des fumigations de temps en temps, ça la soulage, j'ai une recette de famille. Ma femme soigne tout le pertant, fit Daniel qui buvait sa tasse de café noir lentement, suivant une méthode à lui, le sucre dans la cuillère plongé peu à peu pour différencier le goût des gorgées successives. Madame Inès, haute et mince dans sa robe de mohair gris, avec son tablier noir garni d'une dentelle et sa broche de jais fermant la ruche blanche du col, avec ses cheveux châtains encore jolis, sa bouche tendre aux lignes impressionnables, Madame Inès regardait Donna qui s'était levée pour partir. « Vous n'aimez pas les enfants ?» dit-elle douloureuse. « C'est vrai, » fit Donna prise au dépourvu. « Mais alors, pourquoi être instituteur, mon pauvre garçon ?»« Ah, si vous pouviez me le dire !» Et il s'en alla.